Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
17h59 sur RMC, c'est la pause à Auguste Delaune, à Reims, où Reims et Lyon sont à égalité 0-0. Une première mi-temps pas vraiment emballante. On va voir si on peut parier peut-être sur un but, au moins un but, dans cette deuxième mi-temps tout de suite avec UND.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Bon, mon petit Johan. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un 4-4 ça peut advenir cet après-midi?
Un 4-4, quel optimisme, Christophe. Écoute, j'ai donné les cotes sèches d'abord. 4-20 la victoire de Reims, 2-15 le nul. Même cote pour la victoire lyonnaise. Justement, je vais jouer sur totalement l'inverse, moi, Christophe. C'est un match nul sec que je vous propose à 2-15 parce que le 0-0 n'est qu'à 2,75. Je le trouve pas énorme et logique en même temps.
Alors, Monsieur Charbonnier.
Ouais. Alors, écoute, peut-être le 1-0 pour les Lyonnais. Ouais.
Okay, qui est coté à 3,55. Est-ce que t'as un éventuel buteur, Lio?
J'en demande beaucoup.
Kadewere,
ouais, parce que non, mais je regardais la prestation des attaquants, je me disais vite fait, mais quel est le meilleur en ce moment? Non, peut-être Kadewere. Allez.
Il est coté à 5,40 et en prochain buteur, du coup, à 8.
Ouais. Écoute.
Ça se tente.
Pour embellir la journée.
Ah, ce serait magnifique. Un petit 1-0. Oui. Oh là là, quelle régalade. Merci, Johan.
Écrasé 1-0.
Oh là là.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et non, pour se régaler cet après-midi, quand on est supporter monégasque, il fallait se louper le repas dominical, Lionel, puisqu'il s'est passé des choses à Louis II en début d'après-midi. La AS Monaco, qui pourtant était pleine crise, hein, puisqu'on annonce quand même que tous les dirigeants vont être débarqués par le propriétaire dans quelques semaines. Et bien, l'AS Monaco s'est révolté et s'est imposé 3-0. Non, vous ne rêvez pas. 3-0 face à qui? Face au Paris Saint-Germain. Aurélien Tiercin était en principauté cet après-midi. Il est avec nous. Salut Aurélien.
Salut Christophe, salut à tous.
Incroyable. Salut Aurélien. Enfin, incroyable, je ne sais pas, parce qu'on se doutait que ça allait pas très fort à Paris après l'élimination en Ligue des Champions, mais de là à les imaginer battus 3-0 à Monaco avec surtout une prestation, mais alors indigne du statut des Parisiens, Aurélien, cet après-midi.
Surtout ça, ouais. Ben c'est ça, ouais. On sent une déliquescence, une absence de motivation quasiment jamais vue en fait depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011. Alors il y avait déjà 3 défaites consécutives à l'extérieur, celle du Real Madrid, mais également à Nantes et à Nice en championnat. Donc là on s'était dit bon, il y aura peut-être un petit boost, un petit surplus de motivation, une envie de se rattraper un petit peu. Et là, ben c'est Marquinhos qui le dit, le capitaine brésilien, c'est le match de l'année tout simplement. Il y avait rien côté PSG à part peut-être Kylian Mbappé, le seul en jambes un petit peu dangereux, même si on peut lui reprocher parfois un petit peu trop d'individualisme. Mais Mauricio Pochettino a parlé d'un match cataclysmique pour le Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas d'envie, voilà, pas de pressing, quasiment pas d'occasion. Finalement, c'est mérité. Et Marquinhos, après avoir parlé du pire match de l'année, il est aussi revenu sur cette défaite au Real Madrid, qui l'élimination en Ligue des Champions, qui fait peut-être encore plus mal que prévu, on l'écoute.
Ouais, si on regarde la continuité, oui, c'est un moment difficile, ça fait mal, pas que pour nous, pour tout le monde, les supporters, pour nous les joueurs, je pense qu'il faut dire la vérité, il y avait beaucoup d'attentes avec un premier match qu'on a fait très bien, c'est une défaite qui nous fait mal, mais on a des autres objectifs à aller chercher, on nous reste que la Ligue 1, il faut qu'on fasse mieux qu'aujourd'hui, parce qu'il faut faire la bonne mentalité, parce que sinon même la Ligue 1, on va perdre ce titre.
Même la Ligue 1, ouais, on peut perdre le titre. T'imagines, Christophe, ils ont 13 points d'avance sur Rennes,
Pour l'instant.
Ouais.
Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Hein.
Pardon ?
Je suis pas trop d'accord avec ce que dit Marquinhos. C'est pas, pour moi, c'est pas la défaite du PSG, c'est la manière de la défaite du PSG. Les 10 dernières minutes qui ont été complètement lâchées. Tu vas perdre 3-1 contre le Real, au Real, à la limite, tu gagnes que 1-0 chez toi. Bon, il y aurait rien à dire si les mecs mouillent le maillot, si, voilà, parce que les 80 premières minutes, franchement, c'était très bien. Il y avait rien à dire. C'était même écœurant pour les joueurs du Real. Mais perdre de cette manière-là, en 10 minutes, lâcher complètement et répéter cette prestation sur 90 minutes pratiquement aujourd'hui, c'est surtout ça qui fait mal. C'est surtout ça, moi, qui me fait mal à mon football, que j'ai l'impression d'assister, honnêtement, à un braquage organisé en live avec des joueurs. Même Spadjari, il n'a pas fait un casse comme ça. Il n'a pas volé autant d'argent à ceux qu'il a volé. Là, et en plus, cet argent qui est volé, il est cautionné par les mecs qui ont été braqués. Alors, je comprends rien. Franchement, là, je suis moi personnellement en colère parce que c'est une mauvaise image. Et en plus, ces joueurs, non seulement ils volent de l'argent, mais en plus, ils volent l'âme des supporters.
Lionel, tu vas un peu fort.
Non. Mais tu te rends compte combien ils sont payés?
Non, mais je sais bien, Lionel. Mais psychologiquement, ce sont des garçons.
Faut arrêter.
Mais oui, mais c'est. Alors, moi, je vais pas les défendre, mais juste un peu quand même. C'est des artistes, et des artistes, c'est fragile psychologiquement.
Ils ont été éliminés
de la Ligue des Champions.
Ils n'ont plus grand-chose
dans le moteur, quoi. Voilà, c'est tout.
Le championnat est déjà gagné.
Et en plus, quasiment, le championnat est déjà gagné.
Ouais, qui continue comme ça, il n'est même pas gagné. Ah. Et ça, ils vont être larguisés. Tu te rends compte? Mets-toi à la place des supporters. Mais c'est un truc de fou, je ne supporte pas.
L'un de nos journalistes, qui est un fan inconditionnel du PSG, me disait, je me demande comment on peut aimer un club autant que je l'aime et détester autant l'équipe qui est sur le terrain en ce moment.
Mais bien évidemment, ils ont raison, mais c'est écœurant. T'imagines qu'il y a des gens qui se saignent pour venir les voir jouer, pour payer leur abonnement, pour voir ça, pour voir leur identité qui est complètement bafouée, parce que c'est l'identité. Moi, j'ai joué contre le PSG, hein. J'en ai fait des matchs, mais j'ai jamais gagné aussi facilement contre le PSG quand j'ai pu gagner, parce que souvent on perdait. Mais là, c'est tellement facile. C'est abandonner le club, abandonner les couleurs, abandonner ses supporters. T'as pas le droit. Moi, je suis en colère. C'est une faute professionnelle. Honnêtement, Christophe, ça a beau être des artistes, des artistes, ils sont capables de se retrousser les manches et de savoir où sont les vraies valeurs, les vraies vérités à un moment donné. Je te promets, je suis pas supporter du PSG.
Par exemple, Neymar ou Icardi, c'est plus vraiment des artistes. Hein. Neymar, c'était vraiment très compliqué, très nerveux, agressif.
C'est des faux artistes.
Et Icardi, par exemple, on s'est moqué par exemple d'un Kostas Mitroglou pendant de longs mois à Marseille, mais là en ce moment, Icardi, c'est vraiment pire que tout. Dès qu'il ne touche pas un ballon, il n'avance pas, il ne fait pas 10 mètres. Après, on a le pauvre Georgino Wijnaldum qui commence ailier droit, après ailier gauche, après milieu récupérateur. Il est baladé un petit peu à droite à gauche. C'est vrai que la ligne directrice du Paris Saint-Germain est un petit peu compliquée à suivre.
Je parle même pas du chef d'orchestre, t'as raison.
Oui, parce qu'il parlait hier, il a parlé en conférence de presse de poser des conditions. On va voir avec le club si on peut continuer, on a envie. Apparemment, selon Mauricio Pochettino, il voit les choses plus clairement que quand il est arrivé, donc il y a un petit peu plus d'un an. Ça paraît quand même de plus en plus flou pourtant quand on regarde les matchs du PSG.
Ouais. Évidemment, le Paris Saint-Germain qui part en quenouille et qui a quand même encore 13 points d'avance au classement, donc il n'y a pas de danger, d'autant que le calendrier quand même qui les attend dans les semaines à venir est plutôt pas mal. PSG-Lorient, ce sera le week-end prochain, enfin pas le week-end prochain puisqu'il n'y a pas de il y a la pause, hein. Il y a la pause internationale qui arrive, ensuite il y aura Clermont-PSG et puis évidemment pour les supporters du Paris Saint-Germain, il y aura le match qui compte, peut-être le dernier match qui compte de la saison, ce sera face à Marseille le 17 avril prochain, le classique.
Je croyais que tu allais dire la finale de Coupe de France.
Ah ben non, ils y sont plus. Ah non, c'est les Niçois qui sont en finale de Coupe de France.
C'est
rigole ou quoi?
Ah oui, c'est vrai.
Oublié,
ah oui, c'est
non,
vrai.
Non, faut pas l'oublier ça. Merci Aurélien. Évidemment, ça va, je pense, occuper nos émissions tout au long de la semaine, cette défaite du PSG et surtout la manière dont elle s'est faite. Merci Aurélien.
Salut,
il est 18h08.
Salut Aurélien.
On va également voir ce qui se passe en Italie. En Italie, où on est en joie, évidemment, cet après-midi, après le doublé de Ferrari. Mais à Rome, on est aussi intéressé par un petit match de foot qui va débuter qui a débuté. C'est le derby romain entre la Roma et la Lazio. Mathieu Zaccanini, c'est au moins italien ça, Mathieu.
Oui, en effet, c'est italien. Salut Christophe.
C'est romain ou non?
C'est pas romain, c'est turinois.
Aïe, aïe, aïe. Et aïe, aïe, aïe.
Oui, en effet. Mais en tout cas, voilà, le match a débuté il y a plus de 7 minutes et on n'a pas traîné pour ouvrir le score du côté de l'AS Roma, puisque au bout d'une minute de jeu, sur un corner rentrant de Pellegrini, le capitaine de l'AS Roma, c'est l'attaquant qui est en grande forme du côté de l'AS Roma, Tammy Abraham, qui a récupéré le ballon. Il n'y avait plus de gardien, il était devant sa ligne. Il a marqué avec les deux genoux et ça fait déjà 1-0 au Stadio Olimpico en faveur de la Roma. Et c'est important puisque actuellement, l'AS Roma était derrière la Lazio de Rome pour une qualification directe en Europa League, puisqu'ils étaient 5e, la Lazio. Et l'AS Roma passe devant s'ils arrivent à s'imposer, à conserver le score. En tout cas, beaucoup d'intensité, grosse ambiance. Il y a également une grosse pensée pour les Ukrainiens, puisque les joueurs avaient revêti un maillot avec un cœur aux couleurs de l'Ukraine. Et là, c'est parti sur des grosses bases. Il y a beaucoup d'intensité et il y a un gros pressing hein, qui est mené de la part des joueurs de l'AS Rome. En tout cas, ça fait toujours 1-0 et c'est la 8ème minute de jeu entre l'AS Rome et la Lazio Rome.
Merci Mathieu, à tout à l'heure. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps entre Reims et Lyon. Arnaud Valadon, lui aussi, lui il n'est pas italien, mais il est rémois, un vrai, un pur bulle de champagne.
Et c'est reparti à l'instant même, 0-0, un changement côté rémois. C'est Bounetti qui est sorti, le Zimbabwean remplacé par Lopi, il avait pris un petit coup à l'œil et à la tempe tout à l'heure. 0-0, c'est donc reparti, on rappelle Peter Bosch expulsé par l'arbitre, il est en tribune, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
Et je vous rappelle le résultat de l'événement de ce début d'après-midi, de ce milieu d'après-midi, la victoire et surtout le doublé de la Scuderia Ferrari qui s'est imposé au Grand Prix de Bahreïn. C'est Charles Leclerc qui remporte ce Grand Prix, le monégasque azuréen. Hein, de la Côte d'Azur qui s'impose devant Carlos Sainz. Lewis Hamilton avec sa Mercedes monte sur la troisième marche du podium. Russell, son équipier, quatrième. Magnussen, cinquième. Magnifique prestation de Magnussen. Et où sont les Red Bull? Bah, elles sont pas là, elles n'ont terminé ni l'une ni l'autre. Donc Verstappen et Perez qui ne marquent aucun point aujourd'hui. C'est évidemment l'information du jour. 18h10, on revient dans un instant pour la suite de ce match entre Reims et Lyon, et puis on va s'intéresser également à l'affiche du soir, l'affiche de la côte, le derby entre les frères ennemis de la côte. L'Olympique de Marseille reçoit l'OGC Nice, ça sera au Vélodrome ce soir à 20h45. À tout de suite.
RMC Intégral Foot,
Christophe Cessieux.
L'Intégral Foot qui se poursuit, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur ce match entre Reims et Lyon en espérant évidemment qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait des buts peut-être là. Oulala, une occasion pour les Lyonnais à l'instant même, Arnaud.
Ouais, 48 minutes de jeu avec ce centre et Moussa Dembélé un peu juste, c'était compliqué à reprendre, surtout qu'il était au duel avec Wout-Fass, mais voilà, Lyonnais qui ont décidé de repartir sur de bonnes bases après une première mi-temps où il y a eu un tir cadré côté rémois et un tir cadré côté lyonnais. C'est dire comment cette première mi-temps fut riche en occasions, mais il redémarre bien les joueurs de l'Olympique Lyonnais, eux qui ont besoin de points pour essayer une incroyable remontée pour aller chercher le podium, eux qui sont distancés au coup d'envoi, qui ont 9 points de retard sur le troisième. Donc il ne faut pas laisser de points en route, absolument pas. En plus, il y aura des confrontations directes pour les Lyonnais qui pourraient donc venir, mais souffler sur la nuque des concurrents rivaux, mais des concurrents, mais voilà, c'est compliqué. Je fais un joli pléonasme, concurrents rivaux là-dessus, mais voilà, faut montrer autre chose pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui ont le ballon. On rappelle la composition: Lopez dans les buts, Luqueba Mendes en défense, Gusto à droite, Enrique à gauche, Awar Kakré à la récupération, Paqueta en 10, Karl Toko Ekambi, Dembélé et Kadewere pour l'attaque lyonnaise.
Voilà, bon, on espère qu'il va se passer des choses. Messieurs, on va prendre la direction du sud. La Méditerranée nous attend. Jeannot Essegui a mis ses lunettes de soleil. Ah, bah oui, évidemment. Voilà, je l'imagine.
Je l'imagine
en terrasse.
Quelle occasion! Pardon, Jeannot, pour les Lyonnais, mais alors là, incroyable avec ce centre. Non, je suis pas fou parce que l'occasion est incroyable avec Malo Gusto qui centre. Lionel, il fait tout bien dans ses centres. Toko Ekambi un peu juste au premier poteau et Dembélé qui s'embrouille. Les Lyonnais qui étaient vraiment tout proches d'ouvrir le score sur cette situation.
Ouais, c'est incroyable. Déjà, le premier loupé de Toko Ekambi qui surprend. Ah bah ouais, parce qu'il est au premier poteau, il ouvre bien son pied pour mettre la balle au premier poteau, quoi, et bah il loupe le ballon, ça surprend Dembélé qui est au deuxième poteau, qui la met lui sur le poteau. Il y avait même le gardien, il a rien fait. Quand même, tu dois les marquer ces buts-là. Hein, quand tu les marques pas, attention. Mais enfin, c'est mieux parce que au moins les Lyonnais arrivent à trouver des joueurs lancés sur les côtés, dans le dos de la défense rémoise. C'est un gros changement par rapport à la première mi-temps.
Ok, toujours 0-0, mais effectivement la plus belle occasion de cette partie. Jeannot, donc je vous le disais, oui. Et qui est à Marseille et qui va nous faire.
J'étais en train de te dire que tous mes potes me disent la prochaine fois tu ramènes le soleil, ce sera bien. Parce qu'ici ça fait une semaine quand même qu'il fait pas très très beau, donc tu vois, c'est un peu dommage. Quoi.
Il descend dans le sud. Pas de bol pour
il faisait meilleur avec du soleil à Auxerre, tu vois, pour la victoire de Toulouse par exemple.
Il fallait.
Il fait toujours soleil à Auxerre.
Ouais. Ouais. Non mais si, toujours soleil sur Toulouse, quand
il gagne. Le sait, Jeannot. Dans le cœur des gens.
Bon Jeannot, Marseille-Nice, ça c'est une belle affiche. Ah, ça c'est une affiche qui évidemment attise l'envie de tous les sudistes, de tous les Méditerranéens.
4500 spectateurs. je répète, 64 500 spectateurs. C'est pas le record du match contre le PSG, mais quand même, ça veut dire que ce soir, le Vélodrome va vibrer pour ce match retour entre Marseille et Nice, avec deux prétendants à la Ligue des Champions, même si Rennes vient de passer devant avec sa victoire style 7 de tennis face à Metz. Mais bon, il y aura pas de Niçois, on le rappelle. Ils n'ont pas le droit de déplacement. Ils étaient quand même 400 au départ du bus hier soir pour montrer qu'ils étaient présents dans l'esprit des joueurs, dans le groupe de Christophe Galtier. Mais oui, c'est un choc tout en haut du classement. Alors après, quand tu regardes les statistiques, l'OM reste sur 4 victoires face à Nice au Vélodrome. La dernière victoire des Niçois, c'était en novembre 2015 avec un succès 1-0. Si tu t'arrêtes un instant, Marseille, c'est quand même 22 points gâchés cette saison au Vélodrome. 14 matchs, seulement 5 victoires. Et oui, 14 matchs à l'extérieur, 8 victoires pour les Niçois. Donc il y a vraiment un déséquilibre au niveau de la balance. Et ça, déjà, ça pose les débats. Parce qu'après, je te vois venir avec tes grands sabots, Christophe, le match aller le 22 août, puis le match qui finalement a été rejoué à huis clos du côté de Troyes. Eh bien non, à Marseille, on calme le jeu. Et Dimitri Payet là, en premier, pas question de parler de ce match aller, mais peut-être plus de parler d'une élimination en Coupe de France. 4-1. Et là, on parle de revanche. Donc, on a quand même cherché un moyen de se motiver au travers de cette rencontre par rapport à un précédent résultat, mais de montrer aussi que l'OM est sur une meilleure dynamique et que l'OM va reprendre un petit peu les affaires en main au stade Vélodrome. Il reste sur 2 défaites consécutives. Ouais. 2-0 contre Clermont, 1-0 contre Monaco. Et Nice qui reste sur un déplacement à Montpellier, plus que moyen, même s'ils ont ramené un score de 0-0 et donc le point du match nul.
Donc la dynamique, c'est ce que tu es en train de nous dire, elle est plutôt côté marseillais en ce moment, hein. Même si oui, au Vélodrome, oui. Voilà, c'est compliqué.
Mais Marseille a quand même peut-être plus à perdre que Nice. Enfin, je sais pas, dans la façon dont on peut envisager cette rencontre, Lionel, je sais pas ce que tu en penses, mais...
Non, je suis d'accord avec toi parce qu'il va falloir 64 000 spectateurs. C'est-à-dire que tu peux pas, quand t'es Marseillais, ne pas jouer. Et tu sais que cette équipe de Nice est très très forte en contre, et notamment à l'extérieur. Donc attention, les Marseillais vont être en danger. Il va falloir qu'ils fassent le jeu, poussés par leur public. C'est pas facile. Et ces deux derniers matchs à la maison ont laissé des traces, hein, du côté des supporters. Je pense aussi dans les têtes des Marseillais. Donc il va falloir vraiment que les Marseillais fassent un gros gros match offensivement, mais aussi défensivement dans les transitions. Et c'est pas leur ils sont pas très forts là-dedans en ce moment.
Et puis il y a le match de jeudi. Alors même si on a fait tourner, hein, Kolasinac, Camara, Milik et Gerson plus Payet ont été préservés dans la perspective de ce choc face à Nice. Paulo Lopez reviendra dans les buts. Kolasinac titulaire à gauche parce qu'il y a, comme le dirait Flo et Germain, une petite longueur d'avance dans l'esprit de Sampaoli pour Kolasinac plutôt que Luan Perez. Il préfère un vrai latéral à gauche et un joueur hybride à droite. Allez donc comprendre. Payet, lui, absent à Brest et à Bâle. De retour derrière Milik. Donc ça veut dire que dans la composition de l'équipe, Paulo Lopez, Rongier, Saliba, Tchaletassar, Kolasinac, Guendouzi, Camara, Under à droite, Gerson à droite, Payet derrière Milik. Voilà à quoi devrait ressembler la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille. En face, Galtier veut voir autre chose que ce qu'il a vu face à Montpellier. Il y a eu l'expulsion de Dante qui sera donc pas là, ouais. Qui sera présent mais pas là sur le terrain puisqu'il a rejoint le groupe cet après-midi à leur hôtel. C'est Rosario qui va certainement être associé à Tolibo. Il a déjà monté un peu plus d'assurance et c'est paradoxal que Dani Luc, qui pourtant quelqu'un qui a l'habitude de jouer à ce poste mais qui a jamais été très très bon à chaque fois qu'il a été utilisé dans l'axe de la défense. Boudaoui suspendu également pour accumulation de cartons. Ça nous donne pour Nice Benitez dans les buts, Lotomba, Todibo, Rosario et Barre. Au milieu de terrain, dès l'instant où Rosario va reculer d'un cran, Schneiderlin va retrouver une place avec Lemina. Thuram dans le couloir gauche, Stengs dans le couloir droit. Guiri avec, semble-t-il, plus de l'or que Dolberg. Voilà pour les dernières infos glanées du côté de Nice avec notre correspondant Clément Brossard.
Très bien, très bien. Donc tu l'as dit, il n'y aura pas de supporters niçois, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est un peu tendu quand même. Alors c'est vrai que ce match, les relations étaient très tendues entre les dirigeants niçois et marseillais en début de saison. Ça s'est calmé quand même, hein. On l'a vu, on l'a entendu.
Oui, il y a eu la volonté de la part des deux présidents, hein, Longoria et River, d'apaiser tout ça. Bon, après, il y a eu quand même toujours ces histoires de règlement de compte à distance dans les différents dans le dossier du match aller, hein, où ça n'a pas été simple non plus dans la façon dont l'un et l'autre des deux présidents et chacun des clubs a essayé de trouver matière à se défendre. On est sorti un petit peu de tout ça. Oui, il y a quand même cette élimination en Coupe de France que les Marseillais n'ont peut-être pas digéré, mais dans leur façon dont ils ont abordé le match et surtout au niveau du résultat, avec à la clé l'élimination. Et on sait que depuis, Nice se retrouve en finale face à Nantes le 7 mai prochain. Donc oui, on a plutôt envie de calmer le jeu, et c'est plutôt positif dans le sens où il y a un réel enjeu encore une fois ce soir sur ce match qui peut permettre à un vainqueur, s'il y a, de retrouver la place de deuxième.
C'est vrai que pendant très longtemps, les Marseillais ont un peu snobé les Niçois. Hein. C'était pas du même niveau que Marseille.
Ouais, ça, on sent ton côté niçois. Quand même, là. Excuse-moi, mais bon.
Non, mais c'est vrai.
Je ne rebondirai pas sur ce secteur-là. Voilà.
Il reste sur la technique. Je veux un peu le faire parler de passion. Mais non, il va rester droit dans ses bottes, notre Jeannot, évidemment, avant ce match.
Non, mais la passion, elle existera sur le terrain, bien évidemment. Oui. Parce que de toute façon, ces deux équipes-là sont obligées de nous montrer quelque chose de grand ce soir. Parce que derrière le PSG qui tâtonne, vous en avez parlé, je vous ai écouté attentivement, derrière ce PSG-là qui je pense va prendre encore plus de risques d'ici la fin de la saison en ne jouant pas vraiment correctement leur match, ça peut donner des idées à Rennes, ça peut donner des idées à Marseille, ça peut donner des idées à Nice aussi, mais tout dépendra du résultat de ce soir.
Très bien, Jeannot, rendez-vous 20h45. Je vais t'écouter ce soir. Attentivement parce que ce match, franchement, il est assez excitant. Merci, Jeannot. À tout à l'heure, donc 20h45 pour cette rencontre. En attendant, il y a un peu moins de passion et un peu moins de beaux jeux cet après-midi, même si les Lyonnais sont sortis un peu tout à l'heure de leur réserve avec cette occasion. Et on a vu également une belle occasion rémoise il y a quelques instants, Arnaud. Enfin, il y a deux, trois minutes.
La frappe de Conan, hein. Même s'il y avait une position de hors-jeu de Hornby qui a obligé Anthony Lopez à se détendre pour rien, c'est quand même un petit peu mieux. Sur ce premier quart d'heure, ça te fait rire, Lionel. 58 minutes de jeu, 0-0. On trouve aussi un peu plus Paqueta et on voit surtout plus Paqueta qui vient de servir Kadewere. La frappe de Kadewere qui va passer au-dessus, mais au moins il tente sa chance. Mais oui, à l'image, c'est franchement, Lionel, on voit plus Paqueta. Donc, qu'on voit plus l'Olympique Lyonnais en attaque. C'est comme ça que Exactement. Je le ressens sur le début de cette deuxième mi-temps.
Exactement, il se montre plus Paqueta entre les lignes, il distribue un peu mieux. Je pense que les Lyonnais, à Kadewere a frappé. Bon, il est écoute, ça fait ils auraient pu frapper plus que ça. Donc on va pas lui reprocher, mais il y avait peut-être d'autres choses à faire avec Malou Gusto sur le côté droit qui arrivait lancé. Je pense que quand même la clé, elle peut arriver du côté de Malou Gusto qui se balade aujourd'hui sur son côté droit, le trouver lancé et continuer de faire ses centres là derrière entre la défense et le Rémoise et son gardien de but. Ce sont des centres très importants, très dangereux. Après, il faut que Kadewere vienne au premier poteau ou Dembélé, qu'il s'organise dans la surface. C'est Lyonnais parce que il y a une mauvaise organisation. Ils sont trop alignés sur les centres de Malou Gusto.
0-0 et bientôt l'heure de jeu à Delon entre Reims et Lyon.
18h24, vous êtes sur RMC, l'intégral sport qui se poursuit, l'intégral foot plus exactement, avec ce match donc entre Reims et Lyon. Je vous rappelle les résultats quand même de l'après-midi parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On en a parlé avec notamment la défaite du Paris Saint-Germain qui s'incline 3-0 en terre monégasque, donc battu par la SM. Victoire également importante pour Montpellier qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Bordeaux. Lanterne rouge plus que jamais. Lorient et Strasbourg ont fait match nul 0-0. Rennes s'est imposé 6-1, Lionel, face à Metz, hein. Les Rennais qui sont sur une sacrée dynamique en ce moment. Ils sont d'ailleurs deuxième avant le match de ce soir entre Marseille et Nice. Franchement, est-ce que ce serait pas enfin une année pour Rennes, même si on sait qu'ils ont souvent des trous d'air au cours d'une saison, mais là ils sont pas mal quand même, hein.
Non, pourquoi pas. Et puis ils sont constants, ils font vraiment tout ce qu'il faut, ils mettent des ingrédients. Alors des fois ça passe pas, mais tu peux jamais reprocher aux Rennais de lâcher un match. Franchement, moi, j'en ai pas un en tête. C'est très bien. Moi, en plus, je suis content parce que c'est Genesio. J'ai toujours en tête ce Genesio bashing de Lyon, et il est parti, ça a plus ou moins bien marché en Chine, et puis il est revenu maintenant, il fait du bon travail, il relance des joueurs, Terrier, enfin il y en a plein qui sont vraiment vraiment de mieux en mieux. Son équipe vit bien, c'est important, c'est vrai, on le dit, on se moque à chaque fois qu'on le dit, mais regarde cette équipe, le dynamisme qu'elle met dans ses actions, quand il y a un mec, même à 6, ils sont au 6e but, ils sont tous hyper heureux, quoi. Des fois, tu pourrais être blasé, assis, tu dis bon, allez, c'est bon. Mais non, c'est, il y a vraiment du dynamisme. C'est, ils sont en train de vivre quelque chose de très, très bien, ces Rennais, et avec leur public en plus, parce que le match de Coupe d'Europe a été magnifique, et sur le terrain, et dans les tribunes. Donc, bravo, messieurs les Rennais.
Voilà, Rennes deuxième pour l'instant au classement avec 52 points. Ils sont à 13 points tout de même du Paris Saint-Germain. Marseille et Nice suivent à la troisième et quatrième place. Ils sont quasiment à égalité parfaite avec le même nombre de points et le même goal average. La seule différence, c'est le plus de buts marqués pour les Marseillais. Et puis, en queue de classement, la situation est la suivante. Bordeaux est donc dernier avec 22 points. Metz, un point devant seulement, 23 points. Et puis, Saint-Etienne est en position de barragiste, 18e avec 27 points. Voilà, il y a un petit écart entre Saint-Etienne et les deux derniers maintenant. Clermont est juste devant Saint-Etienne avec un point de plus, tout comme Lorient avec 28 points. Voilà pour la situation. 18h26. Ah, voilà, Jeff Paturo nous en parlait tout à l'heure. Eh bien, ça a été officialisé il y a quelques instants. Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, après son triomphe et le grand chelem hier, est prolongé jusqu'en 2027, il va avoir le temps de construire avec évidemment la Coupe du Monde l'année prochaine et puis ensuite les années qui vont venir. 2027 a priori, hein, 28 ou 27, voilà, bon, 27 ou 28, en tout cas c'est acté, c'est Serge Chimon qui l'a annoncé.
Donc ça veut dire deux Coupes du Monde,
23, 24, 25, oui c'est ça a priori, ouais,
deux Coupes du Monde, voilà. Jusqu'à la, ouais, jusque sûrement pas la prochaine mais le celle d'après. Deux Coupes du Monde pour Galthié.
Ok, eh bien on en parle dans un instant. Jeff Paturo va nous rejoindre justement pour nous parler de ça dans un instant. Et puis on va s'intéresser à un match de top 14 qui aura lieu ce soir entre le Stade Toulousain et Montpellier. C'est leur dernier match sans leurs internationaux. Bah oui, ils sont contents de récupérer tout ce petit monde dans les jours à venir. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
18h29, on va repartir pour Reims dans quelques minutes, mais je vous le disais, donc l'information vient de tomber. Fabien Galthié prolongé, le sélectionneur du 15 de France après son triomphe hier dans le tournoi des destinations. Il y a juste une petite hésitation concernant la date de sa prolongation. Serge Chimon dit 2027 et le président dit 2028. Il y a de la friture sur la ligne entre les instances dirigeantes du rugby français, Jeff.
Le président de la Fédération française de rugby, dans un entretien au Midi Olympique, dit Fabien va continuer au-delà de sa mission, au-delà de 2023. J'en ai parlé avec lui. Il d'ailleurs, ce que Bernard nous avait dit hier, c'est qu'il l'avait évoqué avec les joueurs. Rappelle-toi, il a dit, j'ai discuté avec les joueurs et le staff, et avant match, la veille du match, lors de la remise des maillots, j'ai confiance en Fabien et confiance en ce qu'il fait. Il va poursuivre avec nous. On doit se voir cette semaine pour officialiser, mais selon nos informations, c'est ce qu'on nous a confirmé la Fédération française de rugby. C'est un contrat jusqu'en juin 2028 pour ne pas.
C'est-à-dire que donc deux Coupes du Monde plus une année de bonus.
Le tournoi supplémentaire, le tournoi 2028, c'est-à-dire pour ne pas repartir de zéro dès la fin de la Coupe du Monde.
Oui, parce que la Coupe du Monde se termine en novembre, le tournoi arrivant juste deux mois plus tard, c'est un peu compliqué.
L'intérêt, c'est de pouvoir continuer ce travail jusqu'au tournoi suivant et que le sélectionneur suivant arrive pour la tournée de juin-juillet 2028. Ça permet de travailler dans des meilleures conditions et de repartir sur un nouveau cycle à partir de ce moment-là.
Est-ce que tout le staff va être prolongé également? Parce qu'on sait que les Anglais aimeraient bien nous piquer Sean Edwards, qui est anglais lui aussi, mais qui a fait beaucoup de bien à la défense du 15 de France.
En fait, c'est à Fabien Galthié de décider, puisque c'est Fabien Galthié qui va être prolongé pour les années à venir et qui va constituer son équipe. A priori, il y a peu de changements à attendre. Il y en a certains qui voudraient déjà continuer. On passe à Laurent Labitte, l'entraîneur des lignes arrières, qui est sous contrat, comme Fabien Galthié, comme Raphaël Ibanez, jusqu'en 2023. Les autres membres du staff, eux, ils sont jusqu'en contrat jusqu'en 2024. Tu vois, là, c'est pareil. C'est un an après la Coupe du Monde.
D'accord, un an
après,
ouais.
Parce qu'eux, ils sont arrivés pour la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde 2019. Laurent Labitte, Thibaut Giroud et d'autres étaient déjà là pour la Coupe du Monde 2019. Donc, ils vont prolonger. Mais on ne sait pas encore pour combien de temps, qui exactement, puisque c'est à Fabien Galthié décidé. Lui, il va prolonger jusqu'en juin 2028. Il va constituer son équipe. A priori, peu de changements.
Oui.
Mais l'intérêt, c'était d'aller vite, puisque certains membres du staff étaient déjà courtisés activement
par
le club. En fait.
Mais c'est un peu le problème de ces Coupes du Monde qui se déroulent en plein cœur d'une saison. Donc du coup, si tu ne sais pas si tu es prolongé après, tu peux t'engager avec des clubs, ne sachant pas ce que l'avenir te réserve au niveau fédéral.
Mais en tout cas, Bernard Laporte nous a confirmé que c'était jusqu'en juin 2028.
Voilà, on a une bonne chose.
Voilà.
Très bien.
Pourquoi changer?
Oui, bah oui, oui, oui. Bah après, on prend un risque. Si on se fait sortir dès le premier tour de la Coupe du Monde 2023, on va avoir l'air malin. Tiens, bah enfin, c'est comme ça. Ça se passe aussi comme
ça.
Dans le foot. Et bah, de toute façon, ça va pas se passer. Non. Tiens, on va rester dans le rugby puisqu'on va accueillir Julien Landry parce qu'il n'y a pas que le 15 de France. Il y a aussi le top 14. Et en plus, deux clubs qui n'ont qu'une envie. Enfin, peut-être moins côté Montpellier, hein, parce que Montpellier, ça marche très bien sans les internationaux. Mais côté Toulousain, évidemment, on a envie que toute cette période se termine, même si on a vu les Toulousains, leur ancien président, leur nouveau président, communier hier avec le 15 de France. C'est d'ailleurs, moi, l'une des images que je retiens, c'est-à-dire cette communion totale de tout le rugby français, à la fois les instances fédérales et les instances des clubs.
Il y a eu
clubs.
Un communiqué commun, ce qui est assez rare pour un lendemain de tournoi, de la Ligue nationale de rugby, de la Fédération française de rugby, pour se féliciter du travail effectué en commun ces derniers temps.
Oui, c'est magnifique ça. C'est tellement nouveau dans le rugby français.
Oui, mais voilà. Il faut rappeler que René Buscatel est à la tête de la Ligue et il s'entend bien avec Bernard Laporte.
Et il était hier sur la pelouse pour remettre la coupe. Je vois mal Paul Gauze dans la même situation, hein, vu la relation qu'il entretenait avec Bernard Laporte. Julien Landry est donc avec nous, ça le fait marrer. Ça va Julien ?
Ça va très bien, et toi ?
Eh ben oui. Après ça, ah oui, ce qui s'est passé hier, ça ne peut qu'aller bien, hein, mon petit Julien. On s'est régalé quand même.
Bon, ah oui, on s'est régalé.
Je le disais, côté Toulousain, maintenant, alors c'est bien, on s'est régalé, mais rendez-nous les joueurs. C'est un peu l'appel qu'ils vont faire, même si évidemment ils ne pourront pas les avoir ni ce soir, ni vraisemblablement la semaine prochaine. C'est un peu leur dernier match sans leur cadre ce soir face à Montpellier.
Ouais, je serais moins affirmatif que toi pour la semaine prochaine.
Ah oui, d'accord.
Pour en avoir discuté avec Philippe Saint-André avant-hier, quand on lui a dit tu vas récupérer tes internationaux en début de semaine, est-ce que tu vas leur offrir des vacances ? Il nous a dit très clairement, ça fait 9 semaines qu'ils sont en équipe de France. Ils ont eu des semaines de repos pendant que les joueurs trimaient. Donc moi, mardi, ils seront à l'entraînement avec nous et je compte sur eux dès ce week-end. Donc je pense que Hugo Mola va être exactement dans la même logique. Il va récupérer 10 internationaux, alors peut-être qu'il ne les fera pas tous jouer. Mais la semaine prochaine, il y a la réception de Lyon qui sera également un match capital en vue de la qualification parce qu'il y a déjà Montpellier ce soir qui est le match en retard et que si jamais les Toulousains venaient à s'incliner, ils sortiraient du top 6 et donc il va leur rester quelques matchs pour aller chercher la qualification. Et que je pense qu'Hugo Mola, qui a vécu ses doublons de manière très douloureuse, c'est la première fois que le Stade Toulousain vit des doublons de manière aussi douloureuse. Je pense que la semaine prochaine pour la réception de Lyon, s'il peut compter sur 7 ou 8 des internationaux qui ont fait le Grand Chelem, je pense qu'il ne va pas se priver. Mais oui, évidemment, ils ont hâte que cette longue période s'achève pour eux parce qu'ils en ont souffert 7 défaites pendant cette période entre novembre et cette victoire contre Bordeaux avant de perdre la semaine dernière contre le Stade Français. Évidemment, ils ont hâte que tout le monde revienne. On appelle un peu ce soir la finale des doublons pour le Stade Toulousain qui a hâte évidemment que cette période s'arrête.
Évidemment. Toulouse qui reçoit donc Montpellier. Toulouse champion de France, champion d'Europe, mais en difficulté, tu le disais, face à une équipe montpelliéraine qui est en pleine euphorie. Hein. C'est marrant que Galtier réussisse avec l'équipe de France et Saint-André réussisse en même temps avec Montpellier. Hein. On sait que les deux hommes ne se sont pas toujours appréciés. Même si Philippe, j'ai remarqué ça hier, disait l'équipe de France est très bien encadrée. Il reconnaît les mérites.
Oui, tous les anciens sélectionneurs, que ce soit lui, Marc Lépoumont, etc., ils sont plutôt dithyrambiques.
C'est difficile de dire le contraire de notre côté. Hein.
Oui.
Ouais, ils sont dithyrambiques sur le staff.
Oui. En général.
Si on analyse bien les mots, Philippe Saint-André dit toujours que l'équipe de France a un très bon staff, au sens très large du terme. Donc je pense que les mots sont importants. Mais oui, c'est vrai que quand on se retourne un an en arrière, Montpellier était 13e, avant-dernier du top 14, lutter pour sa survie dans ce championnat. Un an plus tard, ils sont leaders du top 14, avec la possibilité ce soir de mettre les Lyonnais à quasiment 10 points, et donc se qualifier directement pour les demi-finales. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus tabou du côté de Montpellier de parler d'une qualification directe pour les phases finales. Du côté de Nice, au milieu du mois de juin, Philippe a d'ailleurs fait les calculs. Il pense qu'il faudra 75 ou 76 points. Et donc là, il a 3 matchs très importants à jouer. Le match en retard ce soir contre Toulouse, la réception de Biarritz la semaine prochaine et un déplacement à Perpignan dans 15 jours. Et Philippe a tendance à dire que si les Montpelliérains négocient très bien ces 3 matchs, il pourrait peut-être être qualifié d'ici un mois. Et ce match ce soir, même si c'est toujours très difficile de te dire que tu vas aller gagner à Toulouse, parce que c'est le meilleur moyen d'énerver les Toulousains, mais il est clairement ciblé.
Tu le dis pas, tu le fais.
Exactement. Non, mais il est clairement ciblé par les Montpelliérains qui avaient fait une grosse impasse du côté de Castres il y a 15 jours et qui ce soir ne font clairement pas l'impasse. Philippe Saint-André envoie la meilleure équipe dont il dispose, en tout cas sur le papier, pour essayer d'aller faire un coup du côté de Toulouse. Une pelouse que les Montpelliérains, en plus, où les Montpelliérains avaient gagné la saison dernière dans cette période compliquée. Donc voilà, c'est une pelouse qui a tendance à réussir aux Montpelliérains depuis quelques saisons. Et Philippe Saint-André a bien l'intention de faire un gros coup. Et puis malgré tout, si t'élimines Toulouse des phases finales, c'est quand même réussite ce soir.
Ah ouais. Oui, il vaut mieux les battre maintenant.
Ça va être quand même compliqué d'éliminer le Stade Toulousain. Ouais. Quand ils vont être au complet.
Ils sont quoi ? Ils sont septième, ils vont rentrer tout le monde. Voilà.
Vont non, évidemment, mais ce soir, ils pourraient être loin de.
Oui, c'est vrai.
Être pas dans les six. Tu reçois Lyon la semaine prochaine, avec un peu la pression jusqu'à la fin de saison, le retour de la Coupe d'Europe. Voilà, les Toulousains vont devoir s'employer en tout cas pour se qualifier et peut-être dépenser plus d'énergie que prévu pour aller chercher une place parmi les barragistes.
Eh ben, c'est un match bien excitant que tu nous commenteras donc ce soir. Toulouse-Montpellier à partir de 21h05 à suivre sur RMC. Merci Julien et merci également à Jeff.
À bientôt.
Demain, entre les poteaux. On va parler de Galtier, on va parler de l'avenir du 15 de France, de cette Coupe du Monde qui arrive, de ces lendemains qui chantent pour le 15 de France. Ce sera entre les poteaux en fin d'après-midi. Vous pourrez le télécharger comme toutes les semaines. Merci Jeff. 18h38. Merci. Arnaud Valadon, la sieste est terminée. On se réveille.
Non.
Charbonnier aussi, les gars.
La 73e, 0-0 dans cette partie entre Reims et Lyon. Peter Bosch a pris un carton rouge en première mi-temps pour contestation et les Lyonnais sont en train de s'éteindre à petit feu. Je ne sais pas ce que t'en penses, Lionel. Les Rémois sentent qu'il y a
depuis
un coup à venir.
Depuis la 60e.
Ouais, les Rémois sentent qu'il y a un coup à venir. Et ce qui est étonnant, alors c'est Claudio Cassapa qui assure le rôle d'entraîneur comme Peter Bosch est en tribune. Mais pas un seul changement côté lyonnais. Quand on voit le banc, il y a Jeffrey Adélaïde, Tanguy Ndombele. Ça peut être un petit peu de sang neuf à apporter à cette équipe qui aura fait peut-être illusion un quart d'heure avec cette grosse occasion au retour des vestiaires. Exactement. Mais depuis là, les Lyonnais, ils se contentent du point alors qu'ils ont besoin des 3 points.
C'est même les Rémois quand
les Rémois occasions. Et peut-être qu'ils vont aller, ils sentent que dans ce dernier quart d'heure il y a peut-être un coup à faire.
Ah ouais, je suis d'accord.
Oui, il y a peut-être un coup à faire, mais bon, il faudrait quand même se réveiller pour le faire le coup hein.
Ils sont limités, ils n'ont pas Ekitike qui est leur goléador numéro 1 qui est toujours blessé, touché aux ischio-jambiers qui devrait revenir d'ici quelques semaines. L'attaquant numéro 2, Ali Bilal Touré, est également blessé à la cuisse qui a valu toutes ses blessures musculaires à répétition au club de Limoges, le responsable de la préparation physique en cours de saison. On n'est pas habitué à de telles choses, mais c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence des blessures notamment aux ischio-jambiers qui ont énervé les dirigeants et moi et qui ont décidé de prendre cette décision assez radicale. Donc c'est quand même une équipe de Reims offensivement plutôt limité face à une équipe de Lyon qui a quand même fière allure sur le papier hein, quand on voit cette attaque Dembélé, Kadewere, Karl Toko et Cambi, alors qu'il y aura une position de hors-jeu là pour les Rémois qui voilà, et l'énervement d'Oscar Garcia, le coach de Reims, parce qu'effectivement il y a plus qu'un seul point à aller décrocher face à cet Olympique Lyonnais. Un quart d'heure encore à jouer, 0-0.
Ouais, Lionel, tu disais.
Oui, je pense que les Rémois peuvent espérer beaucoup plus. Alors, tu vois, il y a des positions de hors-jeu un peu bêtes, je trouve.
Oui. C'est des jeunes joueurs en plus.
Ouais, c'est ça. Donc, tu te sais hors-jeu et tu vois ton copain à côté de toi qui est dans ton dos. Ne va pas jouer le ballon et laisse ton copain qui arrive lancer le prendre le ballon. Voilà, ce sont des erreurs de jeunesse. C'est là où les Rémois pêchent un peu ce soir, ouais, cet après-midi. Écoute, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse force de frappe chez les Rémois, mais au moins ils jouent en bloc, ils jouent assez serré, que ce soit, tu vois, leur bloc ne fait pas l'élastique, que ce soit sur les phases défensives ou les phases offensives, et donc ça leur permet de récupérer les deuxièmes ballons, d'être plus saignant sur les attaques de balles. Il y a moins de chemin à faire, ils arrivent pas en retard. En fin de compte, il n'y a pas eu beaucoup de fautes, hein. Dans ce match-là.
Non, très peu.
C'est très maîtrisé.
Deux cartons jaunes. Et les fautes, je te dis ça dans un instant. Il y a eu 20 fautes sifflées. 11 côté Rémois, 9 côté Lyonnais.
Ouais, c'est pas énorme. Hein.
Et le premier changement côté OL avec Jeffrey Adélaïde qui remplace Moussa Dembélé. On joue depuis 76 minutes 0-0.
Très bien. Petit tour en Italie. Le derby romain avec un magnifique but inscrit par la Roma, Mathieu Zaccagnini, il y a quelques instants. Et l'addition se corse pour les Ladians.
Bah, tout à fait, Christophe. Ça fait déjà 3 buts à 0 pour la S-Rom face à la Lazio qui est complètement battue dans les duels. Ils n'arrivent pas à se créer des occasions et là on a pu voir le capitaine
de la S-Rom, il a nettoyé l'étoile d'araignée,
Lorenzo Pellegrini, qui a mis une mine très très bien dosé en pleine lucarne, dans la lucarne de Thomas Strakosha. Ça fait donc déjà 3-0. Il y avait déjà eu un deuxième but, hein, le doublé de Tammy Abraham, hein, l'attaquant anglais qui avait inscrit ici son 23e but, hein, toute compétition confondue, sur un très bon centre, hein, de Rick Cardors. Il avait réussi à reprendre ce ballon en renard dans la surface, il n'y avait plus de gardien. Ça fait déjà 3-0 et on ne sait pas comment pour l'instant les joueurs de Mauricio Sarri vont pouvoir rebondir parce qu'ils sont assez nettement dominés. On a du mal à trouver le meilleur attaquant italien, Ciro Immobile. Pour l'instant, il touche peu de ballons. C'est la même chose pour le milieu de terrain, Sergei Milinkovic-Savic. C'est très très difficile pour eux. Et en plus, ils sont en mode tueur, hein, cette équipe de l'AS Rome, puisque voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais à chaque fois, ils ont conclu. Et donc, ça fait toujours 3-0. Et c'est la 41e minute. Et c'est un festival pour l'instant, de la part des joueurs de José Mourinho.
Ah, t'aurais bien aimé que les Lyonnais en marquent un pareil, hein.
T'as tout compris, mon yo-yo.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. On espère le but. On l'attend toujours, ce but entre Reims et Lyon. C'est ce résultat sur lequel a misé tout à l'heure Lionel Charbonnier. On va voir s'il est bon. Il y a quelques années, il avait une bonne boule de cristal, hein, mais c'est un peu tard.
Là, non, en ce moment, là, j'ai plus besoin de mon labrador.
Allez, reviens dans quelques instants pour la suite et la fin de ce match. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Et avant de repartir à Reims pour les 10 dernières minutes de ce match entre Reims et Lyon, je vous rappelle que pour l'instant aucun but n'a été marqué dans cette partie 0-0. Je vous rappelle que Justine Breza s'est imposée tout à l'heure dans la Mastart en biathlon à Holmenkollen sur les hauteurs d'Oslo, vainqueur donc de la Mastart, et elle remporte le petit globe de la spécialité de cette Mastart, elle qui avait déjà été sacrée championne olympique de la spécialité il y a quelques semaines. En revanche, Quentin Fillon-Maillet s'est un peu raté sur la Mastart masculine, lui, et du coup il n'y aura pas de nouveaux petits globes. Enfin, il y en a assez, il en a des gros en plus, et plein de médailles olympiques. Et puis nouveau petit globe également pour Tessa Worley en slalom géant, même si elle ne s'est pas imposée aujourd'hui à Méribel, mais elle a tout de même décroché le petit globe donc du slalom géant. Voilà pour les résultats de ski et de sport de neige. C'était les derniers week-ends, le dernier week-end du sport blanc. Le sport vert, lui, continue. Le sport vert, c'est le foot, évidemment. Reims Lyon, 9 minutes à espérer enfin un but, monsieur Valadon.
C'est le sport vierge là, hein. C'est 0-0, 82 minutes de jeu et de la tension, notamment du côté lyonnais. On rappelle le carton rouge, ouais, de Peter Bosch en première mi-temps. Là, c'est Karl Toko Ekambi qui a pris un carton jaune pour contestation. Deuxième changement, Bradley Barcola qui va rentrer à la place de Tino Kadewere côté lyonnais. Mais c'est un petit match de l'Olympique lyonnais. Et on voit Claire et moi, hein, vraiment, hein, sur cette fin de rencontre. Ils font vraiment, ils se sont installés dans le camp des coéquipiers d'Anthony Lopez. Et vraiment, hormis ces occasions au début, dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, les Lyonnais montrent pas grand-chose sous les yeux de Jean-Michel Aulas, qui fait évidemment la moue, parce que cette OL-là, eh bien, justifie sa 10e place en Ligue 1, hein, Lionel. Hein,
il n'y a pas de milieu qui s'échauffe côté lyonnais.
Non, non, hormis Tanguy Ndombele, mais la volonté était de le faire souffler. C'est pour ça qu'il n'a pas démarré après le match contre Porto. Il y a Jeffrey Adelaïde qui est rentré, mais plus une position d'attaquant. Mais non, il n'y a pas eu de changement au milieu. Il n'y a pas un banc pléthorique, hein, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs sur le banc. Emerson, Denayer, Dubois et Da Silva. Et il y avait Red Adelaïde qui est rentré, Barcola à l'instant, et Tanguy Ndombele. Donc il n'y avait pas non plus beaucoup de solutions dans ce secteur de jeu.
Très bien. On en parlait tout à l'heure, Lionel. La victoire, la large victoire de Rennes, hein, qui poursuit.
Paqueta, qui fait une petite roulette sur Abdelhami. Derrière, le retour de Lopi qui va éviter la sortie de but. Très beau, mais Lopi a envoyé le ballon directement en touche. Donc, ce qui fait que c'est pas terminé avec cette touche à jouer pour les Lyonnais. Dans un instant, ça prend un petit peu son temps. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le ballon est dégonflé tout simplement sur ce duel, mais il va y avoir une touche pour les Lyonnais. Un petit peu bizarre cette scène avec monsieur Hamel qui regarde, oui, si le ballon était dégonflé ou pas. Bah, il va faire une balle à terre parce que le ballon était dégonflé. C'est peut-être pour ça qu'il a manqué sa relance, le Rémois. 0-0, 7 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire.
On en parlait tout à l'heure, la large victoire de Rennes qui permet aux Bretons, eh bien, de s'emparer pour l'instant de la deuxième place du classement de la Ligue 1. Ils ont doublé Marseille et Nice qui s'affrontent ce soir. On va écouter Bruno Genesio, parce qu'évidemment, quand on est deuxième du championnat à ce stade de la saison, on a peut-être de nouveaux objectifs. On écoute l'entraîneur rennais.
Pour l'instant, je maintiens ce que je dis, à savoir que l'objectif du début de saison était d'être européen pour la 5e année consécutive. C'est l'objectif du club. Pour l'instant, on est dans l'objectif. Il faudra l'être à la fin de saison. Et je maintiens aussi que si les 3 dernières journées, on est toujours en course pour faire mieux, bien évidemment qu'on fera mieux et bien évidemment qu'on a l'ambition de faire mieux. Mais je crois que ce serait une erreur de se projeter déjà sur ça pour la fin de saison. Il faut se projeter sur le très court terme. Le très court terme, c'est le match à Nice.
Voilà, on prend les matchs les uns après les autres, Lionel. Hein, c'est
oui, bien sûr.
L'adage est bien respecté et bien connu.
Oui.
Ouais. Bah, j'ai connu ça aussi pendant 15 ans.
Ah, bah oui, c'est sûr. Tu étais le maître, avec le maître même de ce genre de déclaration. Qui visait le maintien quand il était deuxième du championnat.
Mais tu sais que c'est vrai, hein, à chaque fois. Hein, franchement, à chaque début de saison, même quand on était européen la saison d'avant, on jouait le maintien le plus rapidement possible. Et puis après, on allait chercher l'Europe si on pouvait, mais c'était d'avoir le minimum de points pour te maintenir. Et puis après, c'était que la cerise sur le gâteau. Ça nous permettait, le coach nous disait tout le temps, ça nous permet de vous payer les salaires. Et nous, en étant européens tous les ans, ça nous permettait d'aller demander, tu sais, une petite augmentation.
Ouais.
Oh ben ça, alors, ouais. Juste pour nous encourager, il ne nous baissait pas de salaire. Il ne nous baissait pas de salaire, tu vois, juste pour nous encourager. Il était gentil.
Voilà, Bruno Genesio, l'entraîneur comblé de Rennes. En revanche, ça fait la tête, et on le comprend, du côté de Bordeaux. David Guillon, c'est...
Bordeaux, ça l'année. Hein.
Ouais, ça va.
Ça l'année pour les Bordelais. Ouais. Tu sais, quand tu as des années comme ça, même quand tu as pléthore d'occasions, que tu n'arrives pas à les mettre, que... avant un match, le match d'avant, c'est Bordelais qui était complètement perdu. Là, ils ressortent la tête de l'eau, mais ça revient pas. C'est dur, c'est fatigant, ouais. c'est usant pour les organismes, pour les têtes, pour tout le monde. Ouais. Là, ça sent pas la bonne année.
David Guillon, qui en conférence de presse tout à l'heure a répondu à la question. Si je suis blessé par la situation, ce n'est pas le mot. J'ai une grosse colère, évidemment contenue, froide. Je suis en colère contre mes joueurs parce qu'on ne peut pas faire un match comme on l'a fait en connaissant les enjeux. On ne peut pas faire un match comme on l'a fait cet après-midi, alors que tout était réuni pour l'emporter. Le groupe s'est totalement sabordé cet après-midi. Voilà donc la réaction de David Guillon, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Bordeaux,
ouais, c'est dur.
Dernier lanterne rouge de cette Ligue 1. C'est la mi-temps à Rome. Au Stadio Olimpico, et pour l'instant l'avantage est large en faveur de la Roma, Mathieu.
Tout à fait, Christophe, le derby de la capitale, on va dire que c'est quasiment déjà fini, puisqu'il y a 3-0 à la mi-temps pour l'AS Roma. La Lazio qui a été complètement dépassée dans cette première mi-temps, il y a eu un doublé de Tammy Abraham à la première, à la 22e minute, et le super coup franc que tu as pu voir de Lorenzo Pellegrini à la 40e. Ça fait 3-0 et c'est la mi-temps ici au Stadio Olimpico.
Merci Mathieu, à tout à l'heure. 4 minutes encore à jouer dans cette purge de foot que ce Reims Olympique Lyonnais, Monsieur Baladon.
Ça l'est devenu.
Je sais pas si c'est purge, mais c'est pas bon, parce qu'après, en fait, il se passe rien. Une purge, il se passe des choses négatives. Là, il se passe rien. C'est encéphalogramme plat. Même si pour les Lyonnais, ils ont le ballon et se réveillent un petit peu dans ces dernières minutes avec Enrique sur le côté gauche qui va essayer de s'appuyer avec une solution, mais avec Geoffrey Nadalide qui décroche. Mais ils sont totalement inoffensifs. C'est vraiment le mot. À un moment, on a cru avec Lionel que ça allait mieux parce qu'il trouvait plus Paqueta, et on a l'impression que seule la lumière peut venir du talent du Brésilien, mais qui est quand même pas mal branché sur courant alternatif sur ce match, et peut-être pas que sur ce match. Et manque de solution, rappelle Peter Bosch exclu dès la demi-heure de jeu pour contestation, carton rouge direct.
Aussi, je le trouve très éteint.
Attention, carton qui est mis dans la surface de réparation, il s'embrouille dans des contrôles, ça revient sur Emerson. Attention, peut-être avec la volée à venir pour Geoffrey Nadalide, il n'a pas de solution. Attention, il va perdre le ballon, et peut-être le contre Rémois avec Doumbia qui a du mal à se projeter vers l'avant, il garde un petit peu trop le ballon, il faut la donner, voilà, c'est fait sur Camori Doumbia, et là montée du latéral droit, Maxime Buzy pour les Rémois. C'est pas totalement une situation de compte parce que les Lyonnais sont en train de venir au repli. La mauvaise passe de Buzy, mais qui oblige Thiago Mendes, le converti au poste de défenseur central, à dégager le ballon en tribune. Mais on n'est pas très loin de la surface de réparation rémoise. Mais ouais, il manque vraiment quelque chose à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Ballon perdu par les Rémois. 88 minutes de jeu.
Peut-être ça, c'est la fraîcheur aussi. Hein.
Ouais.
Un petit peu de fraîcheur aussi.
On rappelle qu'ils ont joué effectivement jeudi contre Porto. Attention avec cette percée de Bradley Loco. Et la frappe qui va passer à droite, bien à droite de la cage d'Anthony Lopez, qui aura mine de rien passé un après-midi très tranquille, comme Rajkovic. Ça, c'est sûr que les gardiens Lionel,
aussi, ouais.
Là, dans cette partie,
j'aurais pu remettre les gants.
Ouais, oui, j'aurais pas eu grand chose à faire. Lopez a en première mi-temps, une tête d'Adélamide directement sur toi, qui a bien capté. Donc, ça, tu maîtrises, hein, bien placé les mains.
Jusque-là, ça va. Voilà. En plus, je suis plus large qu'avant. Donc.
Il y a plus de surface.
Il y a un peu plus de surface. Ouais. Par contre, les buts sont plus grands. Je ne sais pas pourquoi, ils ont dû changer les règles.
Il y a moins de détente, peut-être aussi, non ?
Je ne sais pas, peut-être. Ouais.
C'est les réflexes aussi. Hein.
Oh, mais ça, les réflexes sont toujours bons, t'inquiète.
avec Malo Gusto sur le côté droit, peut-être en position de centre. Il va revenir intérieur, Malo Gusto, qui est peut-être le Lyonnais qui surnage un petit peu. Ah, il s'est mal compris, il a pas trouvé de partenaire, mais j'ai envie d'épargner Malo Gusto hein, sur cette partie, qui a tenté quand il a eu les ballons, il a essayé de les bonifier. Thiago Mendes qui envoie une longue balle, c'est renvoyé par les Rémois qui là se sont un peu plus mis en mode défense, et ce sont les Lyonnais avec la montée de Cassello Luqueba, la bonne intervention et la faute d'Abdelhamid sur Paqueta, le bon coup franc à venir pour l'Olympique Lyonnais, peut-être un miracle sur coup de pied arrêté. Ils ont d'excellents frappeurs les Lyonnais, et en plus à une distance intéressante puisqu'on est un petit peu moins de 30 mètres, donc on n'est pas tout proche de l'entrée de la surface de réparation. Et Lucas Paqueta qui a pris le ballon, parce que pour un gaucher c'est plutôt bien situé, et ce coup franc à venir. On est rentré dans la dernière minute de cette partie, et le coup franc à suivre dans un instant pour Paqueta.
Très bien, on va le suivre avec toi évidemment. Il y aura peut-être un peu de temps additionnel derrière, mais ce sera...
On va pas s'éterniser non plus. Hein.
Pas dans les Rajkovic, il va pas prendre une frappe de 30 mètres quand même. Pas 30 mètres, il y a 25. 16, il y a 25 petits mètres. Hein, ça peut faire mouche.
C'est une bonne distance, hein.
Ouais.
Pour Paqueta, il a le temps de le frapper fort, tant que le ballon puisse redescendre également. Avec Paqueta, il y a également Thiago Mendes qui est là, peut-être pour dégager un petit peu le ballon. Il y aura 2 minutes supplémentaires dans cette partie. Et le coup franc, peut-être le miracle pour permettre à l'Olympique Lyonnais de croire encore aux places européennes. Avec Paqueta, le coup franc, c'est au-dessus Paqueta, pour presque le seul coup de pied arrêté intéressant de cette partie pour l'Olympique Lyonnais. Un autre changement côté Rémois, Alexis Flips va remplacer Thomas Fauquet qui faisait son retour, lui qui a été appelé comme son compatriote haut de face par Roberto Martinez, le sélectionneur belge pour la prochaine trêve internationale. Et Rajkovic qui va prendre son temps, il reste déjà 1 minute 30 dans ce temps additionnel, 0-0 dans cette partie entre les Lyonnais qui auraient 8 points de retard sur Marseille et sur Nice aussi. Donc il y avait quand même, vous pouvez profiter de la confrontation directe de tout à l'heure pour grappiller des points et essayer d'y croire. À 9 matchs de la fin les Lyonnais, mais là ça sent vraiment le roussi pour l'Europe. Le long dégagement de Pedra Grajkovic, ouais. On va rentrer dans la dernière minute de ce temps additionnel, et le ballon revient à l'envoyeur sur ce dégagement, et Grajkovic qui va gagner encore un petit peu de temps, qui va envoyer le ballon sur le côté droit sur Alexis Flips. Duel aérien remporté par Henrique derrière. Attention les Rémois, on n'arrive pas à contrôler le ballon, et Abdelhamid il s'embête pas. Il donne le ballon à Rajkovic. Alors c'est pas comme il y a 30 ans Lionel, où le gardien pouvait le prendre à la main ce ballon. Il est obligé de rejouer, les Lyonnais qui s'activent un petit peu, mais franchement ils ont pas... Attention, le mauvais ballon peut-être récupéré par Lucas Paqueta. Attention au deuxième poteau, il y a Barcola qui appelle, Paqueta qui va pas le suivre. Le ballon peut-être pour Aouar, pour Barcola. Aouar dans la surface. Oh l'arrêt de Rajkovic. Oh l'arrêt miraculeux de Rajkovic, parce qu'il a pas fait exprès, il est parti plonger sur sa droite. Il a touché ça avec son épaule droite, c'est-à-dire à l'opposé. Oh quelle réussite pour Rajkovic là-dessus. Aouar qui reste au sol, il s'en veut d'avoir manqué ce duel, parce que franchement Rajkovic il était totalement pris à contre-pied et son épaule vient sauver, c'est miraculeux là-dessus. Il reste 10 secondes dans cette partie, les Lyonnais qui ont failli réaliser presque un braquage, parce que franchement les deux équipes méritent le partage des points, ne méritent pas mieux. Et voilà, c'est terminé sur ce coup du sort, et Aouar qui ne comprend pas, arrêt incroyable, miraculeux de Rajkovic, et Lyon partage les points et voit l'Europe s'éloigner de plus en plus à 9 matchs de la fin du championnat.
Ouh là là, ça a vraiment failli le faire sur la dernière action, hein, Lionel. Les Lyonnais qui peuvent se les manger.
Bah ouais, surtout Aouar, ouais, il est tout seul, mais il tire plein axe, quoi. C'est étonnant, ça frappe d'Aouar comme ça. Alors Rajkovic part sur sa droite et le ballon revient sur sa gauche, et il a une espèce de réflexe avec il fait une manchette un peu, parce que la balle elle est trop sur lui, quoi. C'est pas normal que Aouar ne vise pas plus un côté. Franchement il est plein axe, il la met ou à droite ou à gauche, mais pas dans l'axe. C'est dommage. Bon, là, voilà, Rajkovic a gagné 2 points importants pour son équipe. Et par contre, Lyon s'éloigne petit à petit.
Oui, mais je ne sais même pas s'ils y croient encore. Lyon qui est ce soir 10e au classement avec 42 points. Ils sont donc à 8 points de Marseille qui est 3e, mais qui joue ce soir face à Nice. De toute façon, il y aura peut-être un vainqueur. Donc voilà, ils sont à peu près à 8-10 points de la 3e place du classement. Ça s'annonce compliqué pour les Lyonnais.
Ça va être compliqué.
Il leur reste la Ligue Europa, éventuellement, pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Merci Lionel, merci Arnaud de nous avoir fait vivre ce
salut à
match.
Tous.
Heureusement qu'il y a eu cette dernière action, parce qu'autrement on serait quand même bien bien ennuyé. Merci les garçons. Il est là, ciao. Thibaut, Maryse, ils sont là. Alors, duo de choc et de charme. Bon,
t'as vu le plateau de deux
ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé là ce week-end là, et quoi, là
écoute, à événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Le grand chelem qu'on attendait depuis 12 ans, Christophe, qui va nous occuper dans la demi-heure qui vient avec Maryse, bien sûr, comme tous les dimanches, avec Laurent Cabane.
Ah oui, mais lui, il a joué en Angleterre. Hein. Attention. Hein.
Mais justement,
faut faire gaffe. C'est un faux ami.
Mais le tournoi qu'il a gagné, c'était bien avec le 15 de France.
Ah oui.
On sera avec la Dream Team Rugby. Jeff Paturo sera là également. On va se projeter vers la suite, ce mondial qui arrive. Et puis, à partir de 19h30, la Formule 1, les enseignements de ce premier Grand Prix et ce doublé Ferrari. Et puis, on ira en Norvège retrouver Julien Richard. C'était week-end de consécration pour Quentin Fillon-Maillet. Le RMC Sport Show dans un instant en direct jusqu'à 20h sur RMC.